Extrait numéro 12, chapitre 17. Chasses à l'ours. Pendant que je tournais autour de cette statue de Souvorov, je me sentis touché à l'épaule. Je me retournai et jetai un cri de joie. C'était Blanchard. Vous connaissez Blanchard de nom ou d'œuvre, n'est-ce pas? C'est l'intrépide voyageur, c'est l'infatigable dessinateur qui a successivement été remplir ses cartons de dessins dans les quatre parties du monde. Nous nous étions quittés à l'autre bout de l'Europe en 1846 à Madrid, il y avait bientôt 12 ans. Depuis ce temps, il avait visité l'Amérique du Nord, le Mexique et une partie de l'Amérique du Sud. Pour le moment, il revenait des pays où je vais, c'est-à-dire de la mer Caspienne, de Tiflis, du Caucase. Il avait appris mon arrivée et accourait me dire, de la part de Dosuna, notre vieil ami d'Espagne, qu'il avait appris aussi, qu'il m'attendait à l'instant même où que l'on mettrait la main sur moi. J'objectais ma veste de velours blanc et mon chapeau de toile cirée. L'objection n'eut aucun succès. Je fis une condition, c'est que je passerais par l'atelier de Blanchard et que je verrais ses dessins. Cela tombait à merveille. L'atelier de Blanchard était sur la route. Nous remontâmes dans mon drojki et nous allâmes rue de la Petite Morskoï où logeait Blanchard. Là, il me mit à même d'une centaine de croquis mexicains, espagnols, caucasiens, turcs, russes. Il venait d'achever un album russe pour l'impératrice de Russie. Par malheur, Moinet n'était point avec nous. Le retard de la douane l'avait encore plus maltraité que moi. Les cartons feuilletés depuis le premier jusqu'au dernier dessin, Blanchard me rappela sa visite à son Excellence l'envoyé extraordinaire de Sa Majesté Isabelle II, le duc d'Osuna. Nous reprîmes notre drojki et nous indiquâmes le palais du duc d'Osuna, quai anglais, maison Larski. 10 minutes après, le Suisse nous introduisait dans l'antichambre dont les honneurs nous furent faits par un ours magnifique. C'était une victime de Sa Majesté l'Empereur Alexandre II, fort brave et fort adroit chasseur de cette sorte de gibier. Une inscription constatait l'honneur qu'avait eu le gigantesque quadrupède d'être tué par une main impériale. L'ours était debout, appuyé à un tronc d'arbre taillé en fourche et pouvait avoir 7 pieds de haut. Il appartenait à la race sibérienne, race terrible de force et, malgré sa lourdeur apparente, de légèreté. Dosuna venait de sortir. Il m'avait attendu jusqu'à 2 heures. Je mis ma carte dans la patte de l'ours et partis. La chasse de l'ours est pour les Russes une véritable passion. Ceux qui se sont fait une habitude de cette chasse ne peuvent y renoncer. C'est la première chose qu'un Russe propose à un étranger chasseur qui arrive en Russie. Dans les régiments, cela s'appelle « tâter son homme ». En général, l'étranger, si les Français, accepte. C'est ce qui arriva au comte de Vogüé, qui, il y a 2 ans, soutint honorablement l'honneur du pays et laissa en Russie un souvenir de courage qui se perpétuera pendant plus d'une génération de chasseurs. La chasse avait lieu chez le comte Alexis Tolstoï, dans le gouvernement de Novgorod. Les acteurs de la scène que nous allons raconter étaient le comte Melchior de Vogüé, le comte de Bilante, chargé d'affaires de Hollande, et le comte Sörtelen, écuyer de la cour de Russie. On avait connaissance d'une mère ayant des petits. C'était une grande bête de la plus haute taille. L'ours, comme tous les animaux, devient plus féroce, on le sait, lorsqu'il a non seulement à défendre sa vie, mais encore à protéger sa progéniture. Mise sur pied par les rabatteurs, La bête passa d'abord au comte de Bilante, qui d'un premier coup de fusil le blessa légèrement. L'ours continua sa route en laissant une trace de sang sur la neige et alla passer au comte de Vauguet. Le comte de Vauguet, qui le tirait à 40 ou 50 pas à peine, lui envoya ses deux balles et de chaque balle le roula. Le comte Sœur Hélène était à 100 pas de là, à peu près, avec deux fusils chargés. Il portait l'un, son domestique tenait l'autre. Ayant entendu les trois coups, et pensant que ceux qui les avaient tirés étaient peut-être dans l'embarras, il envoya son domestique avec un fusil dans la direction des coups qu'il venait d'entendre. En effet, voyant le valet de chambre venir à lui avec un fusil tout chargé, le comte de Vauguet jeta le sien, prit celui qu'on lui apportait et, ainsi armé, se mit à la poursuite de l'ours. C'était chose facile de le suivre. Il laissait derrière lui une large trace de sang. L'ours s'enfonçait dans la forêt. Le comte de Vauguet, toujours suivi de son moujik, s'y enfonça derrière lui. Affaibli par ses trois blessures, l'ours s'était arrêté pour reprendre haleine. Le comte de Vauguet s'avança jusqu'à la distance de 40 pas, ajusta et fit feu. L'ours poussa un rugissement et, au lieu de fuir, se retourna et chargea le tireur. Le comte lui envoya un second coup de fusil. Mais l'ours ne parut pas être touché et n'en continua que plus rapidement sa course. Il n'y avait pas à l'attendre, le fusil était déchargé et le comte n'avait d'autre arme qu'un yatagan que lui avait prêté le comte de Bilante. Il se mit donc à courir du côté où il croyait rencontrer Bilante. Le moujik suivit le chasseur, mais l'ours suivait les deux fugitifs d'un pas bien autrement rapide que le leur. Monsieur de Vauguet, jeune et leste, avait beaucoup gagné sur le paysan russe lorsqu'il lui sembla entendre un cri derrière lui. Il se retourna, il ne vit plus que l'ours. Le paysan, prêt d'être rejoint, s'était enfoncé dans la neige, la tête entre ses deux bras. L'ours s'acharnait sur lui. Le paysan ne criait plus. D'ailleurs, pourquoi eût-il appelé au secours? Quelle chance qu'un noble, un gentilhomme, un Français qui ne perdait rien en le perdant, risqua sa vie pour venir au secours d'un pauvre moujik. Le moujik se trompait. C'était justement parce que le comte de Vauguet était noble gentilhomme, Français, que son cœur se révolta à l'idée de voir un homme mourir sans secours devant lui. Cet homme fut-il un pauvre esclave? Ah non, se dit-il à lui-même, mais tout haut, comme pour s'encourager, s'il lui restait la moindre hésitation, cela ne sera point. Il tira son yatagan, bondit sur l'ours et lui en enfonça entre les deux épaules le fer jusqu'à la poignée. L'ours se retourna vers ce nouvel adversaire et d'un coup de sa lourde patte le coucha à ses pieds. Le comte n'avait pas lâché son yatagan. Il se mit à frapper l'animal sur le nez et dans la gueule. Par bonheur, au lieu de l'étouffer entre ses pattes, l'ours s'acharna à le mordre. De son côté, le comte s'acharna à frapper. Il a dit depuis que, dans cette lutte, il ne voyait rien que les yeux sanglants, que le nez sanglant, que la gueule sanglante de l'ours. Il frappait machinalement, sans relâche, désespérément. Cette lutte effroyable dura-t-elle une seconde, une minute, une heure? Il lui eût été impossible d'en rien dire. Tout à coup, il s'entendit appeler et reconnut la voix du comte de Bilante. « À moi, Bilante » cria-t-il, « à moi !» Le comte de Bilante accourut et s'avança à la distance de 10 pas. Il avait de la neige jusqu'à la ceinture. Tout à coup, M. de Vogüé entendit un coup de feu et il lui sembla qu'une montagne s'écroulait sur lui. N'importe, il continua de frapper. Au bout d'un instant, il sentit qu'on le prenait sous les bras et qu'on le tirait comme d'un fourreau. C'était le comte de Bilante et le comte Sœur-Thélène qui le débarrassaient de son ours. Quant au moujik, il n'avait pas plus bougé que l'animal qui était mort, quoique lui fût parfaitement vivant. On le tira de la neige et on le mit sur ses pieds à son tour. En voyant le comte de Vogüé sain et sauf et en songeant qu'il devait la vie à ce beau gentilhomme, qui, pouvant fuir et le laisser tranquillement dévorer, avait risqué son existence pour le sauver, il se jeta à genoux, lui baisant les pieds et l'appelant son père. Le soir, en rentrant à la maison, le comte de Vogüé voulut rendre à Bilante le yatagan qu'il lui avait prêté, mais celui-ci refusa de le reprendre. Vogüé lui donna une pièce de 20 copecs pour conjurer la croyance russe qui ne veut pas qu'un ami donne gratis à un autre ami une arme piquante ou tranchante. Monsieur de Bilante fit incruster la pièce de 20 copecs dans la crosse de son fusil et le père de Monsieur de Vogüé fit faire par Biard un tableau de la scène et un portrait du comte de Bilante. J'ai connu un rude chasseur d'ours qui pouvait, sous le rapport du courage, aller de pair avec les Gérard, les Gordon Cumming et les Vessières. C'était un beau gentleman de 26 ou 28 ans, un véritable héros de roman, aux formes élégantes et fines et d'une force prodigieuse sous une apparence délicate. De taille moyenne, il eût pu, pour la proportion et la perfection des formes, servir de modèle à un statuaire. Son teint était vif et animé, ses yeux d'une douceur féminine, avaient dans les moments où il s'animait une expression de fierté fulgurante que je n'ai vue qu'à eux. Enfin, son visage d'un ovale parfait était encadré par des cheveux châtains foncés et des favoris d'une teinte plus chaude que les cheveux. C'était le fils d'un amiral au service de la Russie et qui avait servi lui-même dans un régiment de cuirassiers de la garde impériale. Il se nommait Hamilton. Au régiment, cette passion qu'Hamilton avait pour la chasse le faisait manquer parfois à ses devoirs militaires. Mais son charmant caractère, doux et ferme à la fois, l'avait fait tellement aimer, non seulement de ses camarades, mais aussi de ses chefs, que chacun semblait s'entendre pour garder le secret sur ses irrégularités et le sauver des punitions qu'il avait encourues. Cette force athlétique dont Hamilton était doué, et qui était si bien dissimulée sous une apparence délicate, lui permettait de braver toutes les fatigues, tandis que son courage le portait à rechercher tous les dangers. Son adresse n'était pas moins remarquable que sa force et son courage. Sa main était sûre, son coup d'œil infaillible. Le lynx excepté, il n'y avait pas de gibier. Depuis la bécassine jusqu'à l'élan, en passant par le sanglier et l'ours, sur lequel il n'eût fait coup double dans sa vie. Au reste, il en était venu à ne plus chasser les gros animaux avec le fusil. Il les attaquait corps à corps, l'ours particulièrement. Le seul adversaire, disait-il, que dans notre Europe, il eût vraiment trouvé digne de lui. C'était le gouvernement d'Olonets, aux environs de lac Ladoga, à 50 ou 60 verstes de Saint-Pétersbourg, qui était ordinairement le théâtre de ses exploits cynégétiques. Là, en effet, s'étendent d'immenses forêts où nul chemin n'est tracé, non seulement inexploré encore par les agents forestiers, mais vierge même du pied de l'homme. Ces forêts offrent des abris impénétrables aux ours, aux loups et aux élans, et, comme dans celle du Nouveau Monde, on ne peut guère s'y aventurer que la boussole à la main. Mais Hamilton ne se servait pas plus de boussole que de fusil. Il avait l'œil, l'ouïe et l'odorat du sauvage, l'instinct et la perspicacité d'un Mohican. Il reconnaissait les quatre points cardinaux à l'inclinaison et à l'aspect des arbres, dont les branches se montrent toujours plus fortes, plus abondantes et plus feuillues du côté du midi. Nul reconnaissait comme lui la date positive d'une trace sur la neige. En la touchant avec le bout du doigt, il pouvait dire à la solidité ou à la friabilité de la neige si la trace était ancienne ou récente, et il pouvait dire à une demi-heure près à quel moment de la journée ou de la nuit la bête avait passé. Une fois parti, nul ne savait le jour ni l'heure du retour de notre chasseur, pas même lui. Il restait parfois 15 jours, 3 semaines, 1 mois à courir la forêt, sans se rapprocher d'aucune habitation, n'ayant d'autre abri que la voûte brumeuse ou glacée du ciel, d'autre lit que la neige, sur laquelle il dormait, enveloppé de sa pelisse. Aussi, ces parties de chasse étaient de véritables expéditions qu'il accomplissait accompagné de ses chiens et de 2 paysans seulement. Il est vrai que ces 2 paysans, compagnons dévoués et fidèles, étaient d'une force et d'un courage éprouvés. Si souvent ils s'étaient secouris les uns les autres au moment du danger, si souvent le Seigneur avait dû son salut aux paysans, ou les paysans au Seigneur, qu'entre eux c'était à la vie, à la mort. L'un d'eux surtout était d'une force si prodigieuse que lorsqu'un ours était abattu, de quelque taille qu'il fût, après l'avoir écorché sur place, il roulait toute fraîche cette peau qui pesait par voie 80 ou 100 livres, la jetait ainsi roulée sur son épaule, et, ajoutant ce nouveau fardeau à tout son bagage de chasse, glissait, les pieds chaussés de ses patins, sur cette neige avec autant de facilité que s'il n'eût rien porté. Disons en passant que le patin avec lequel on court sur la neige ne ressemble en rien au patin avec lequel on glisse sur la glace. Le patin de neige, fait de bois de tilleul habituellement, ayant la largeur du pied, mais long quelquefois d'1,50 m, et mince et légèrement relevé au debout. 2 bons patins sont une chose précieuse pour un chasseur. Hamilton en possédait une paire, que, disait-il, il n'eût pas donné pour le meilleur fusil du comté de Lancastre. Ajoutons qu'il faut beaucoup d'adresse et d'habitude pour se servir de ces instruments, et qu'Hamilton, aussi adroit de ses pieds que de ses mains, s'en servait admirablement. Les 2 paysans qui accompagnaient Hamilton appartenaient à des villages de la couronne où Hamilton s'arrêtait d'habitude avant d'entreprendre ses grandes expéditions. Il était connu et adoré dans ces villages comme un bienfaiteur et un ami. C'est que, plus d'une fois, le chasseur d'ours, Hamilton était connu sous ce nom, avaient fait reconstruire assez frais leurs isbas détruites par l'incendie et répandaient chez eux l'aisance et la vie en leur abandonnant le produit de ces chasses dans les forêts. Hamilton avait commencé par chasser l'ours à la carabine, mais comme nous l'avons dit, c'était pour lui un plaisir trop facile et sur lequel il s'était vite blasé. Il lui fallait des émotions plus fortes. Il avait donc résolu de ne plus attaquer l'ours qu'à la lance. Ils allaient, les 2 paysans, lui et les chiens, à la recherche des tanières, et quand ils en avaient trouvé une, soit par eux-mêmes, soit par le secours de leurs chiens, ils mettaient l'ours sur pied. Quelquefois, celui-ci acceptait le combat à l'instant même. D'autres fois aussi, et c'était ce qui arrivait le plus fréquemment, il prenait la fuite. Alors, tout l'avantage était pour les chasseurs, qui, à l'aide de leurs patins, glissaient rapidement sur la neige, tandis que l'ours s'y enfonçait parfois jusqu'au poitrail. C'était alors que le drame commençait. Un des deux paysans restait en arrière, chargé de ramasser les différents objets dont se débarrassaient dans leur course Hamilton et son moujik. Parfois, par 30 degrés Réaumur, leur course était si rapide et ils avaient si chaud qu'ils jetaient successivement leurs carabines, qu'ils portaient avec eux par précaution, et pour un cas extrême, tout leur fourniment de chasse et enfin leur pelisse, de sorte qu'ils en arrivaient à poursuivre l'ours en manche de chemise et chacun une lance à la main seulement. L'ours fuyait toujours, haletant, l'œil en feu, la langue pendante, soufflant de ses naseaux une épaisse vapeur, faisant comme une trombe voler la neige autour de lui. De temps en temps, se retournant et poussant un rugissement féroce et comme décidé à combattre. Mais dès qu'il voyait les chasseurs près de l'atteindre, il reprenait de nouveau sa course. Alors, semblable à l'Indien qui provoque son ennemi au combat, le paysan, à la grande joie d'Hamilton, insultait l'ours pour le déterminer à s'arrêter en le blessant dans son amour-propre. « Ah, lâche, fils de lâche !» lui criait-il. « J'ai tué ton père, j'ai tué ta mère, tu n'es qu'un enfant, un gamin morveux, attends-moi un peu et tu vas voir !» Le bonhomme était convaincu que c'était là le meilleur moyen de forcer l'ours à accepter le combat. Et en effet, il arrivait que l'ours, non pas décidé par les injures, mais écrasé de fatigue, finissait par s'arrêter. Alors il se retournait et venait sur ses ennemis, quelquefois pour les attaquer aux jambes. Dans ce cas, celui des deux chasseurs vers lequel il se dirigeait le piquait au nez avec le bout de sa lance. Aussitôt l'ours se dressait sur ses pattes de derrière, tendant les deux bras en avant pour saisir son adversaire et l'étouffer. Hamilton profitait de ce moment et lui enfonçait sa lance dans le cœur. Ou plutôt comme fait le taureau en face du toréador, l'ours s'enferrait lui-même. Alors, aussi rapidement que possible, le second chasseur devait appuyer sa lance dans la région de la première plaie et pousser une nouvelle arme, tandis que le premier tirait à lui l'ancienne, afin que le sang pût s'épancher, ce qui déterminait la mort presque instantanée de l'animal. Il tombait, se débattait un instant avec des rugissements terribles et expirait. Mais les choses ne se passaient pas toujours d'une façon si régulière. Hamilton avait dans son arsenal une lance dont le fer, presque aussi gros que le poignet, avait été tordu comme un fil d'arcal. Puis il y avait le chapitre des accidents. Un jour, Hamilton poursuivait un ours dans un pays accidenté, arrivé près d'un ruisseau que la rapidité de son courant avait empêché de geler, excepté sur les bords, l'animal voulut le franchir. Mais soit que le ruisseau fût trop large, soit qu'il eût mal pris ses mesures, l'ours retomba dans l'eau sans avoir pu atteindre l'autre rive. En ce moment, les chasseurs, lancés à toute vitesse, arrivèrent sur sa trace et, emportés par leur élan, vinrent tomber dans le torrent à quelques pas de lui. Mais avec la rapidité de l'éclair, Hamilton se releva et avant que l'ours eût songé à profiter de ses avantages, il lui avait enfoncé sa lance à travers le corps et l'avait clouée à la terre. Le moujik, presque aussi rapidement et aussi adroitement que son maître, en avait fait autant de son côté, et tous deux, réunissant leurs forces, le tirèrent ainsi dans l'eau jusqu'à ce qu'il fût noyé. C'était un ours de la plus grande espèce, le plus beau qu'Hamilton avait jamais tué. Il est aujourd'hui au cabinet zoologique de Londres, auquel Hamilton en a fait cadeau. Il a près de 8 pieds anglais de hauteur. Jugez quelle vigueur il a fallu à deux hommes pour maintenir un pareil monstre sous l'eau pendant les convulsions d'une agonie qui doublait ses forces. Hamilton racontait encore une autre aventure qui, pour être moins dramatique, n'en était pas moins curieuse. Des paysans étaient venus lui dire qu'une vache morte avait été abandonnée à 40 pas de la lisière d'un bois et qu'un ours venait le soir pour la manger. Hamilton résolut de surprendre et de tuer le maraudeur. En conséquence, il se creusa en face du bois une fosse qu'il recouvrit de feuillage à une portée convenable de carabine et vint y attendre à l'affût son amateur de viande fraîche. C'était vers la fin de mai, pendant une de ces belles nuits d'été où l'on voit presque aussi bien à l'heure des plus profondes ténèbres qu'au milieu du jour. Notre chasseur était déjà embusqué depuis une heure ou deux, muet et immobile, l'œil fixé sur la vache et embrassant un rayon de 2 ou 3 verstes, très étonné de ne rien voir paraître dans l'étendue de ce rayon, quand, tout à coup, il sentit sur son épaule la chaleur d'une haleine et entendit respirer bruyamment à son oreille. Il tressaillit non de peur, mais de surprise, et se retourna vivement pour faire face à l'ennemi. L'ennemi, c'était l'ours, qu'il avait éventé, avait fait un grand détour et, par derrière, s'était approché de la fosse pour reconnaître ce qu'il y avait dedans, et cela avec tant de précaution et un si grand silence qu'Hamilton, l'homme à l'oreille de chamois, n'avait entendu ni le craquement d'une branche ni le froissement d'une feuille. Mais alors il arriva une chose à laquelle ne s'attendait pas Hamilton. C'est que l'animal, effrayé de la découverte qu'il venait de faire, s'enfuit si précipitamment dans la direction du bois qu'il y était rentré avant même qu'Hamilton, débarrassé de ses branches, eût eu le temps de le mettre en joue. Enfin, blasé sur 150 ours tués, peut-être, soit à la lance, soit à la carabine, exalté par les récits de Gérard, de Vessière et de Gordon Cumming, il venait de prendre la résolution d'aller au Cap de Bonne-Espérance afin de pénétrer de là en Afrique où il comptait chasser l'éléphant, la panthère et le lion. Il avait déjà fait ses dispositions et avait indiqué à ses amis le jour de son départ quand 2 beaux yeux croisèrent son chemin. L'homme propose, l'amour dispose. Le futur vainqueur de lion, d'éléphant, de panthère, fut vaincu et au lieu de partir pour le Cap, il épousa une femme charmante, Mademoiselle Anderson, avec laquelle il s'en est allé vivre en paisible propriétaire dans un coin de l'Irlande où il ne chasse plus que le renard, le lièvre et la bécassine. Puissiez-vous, cher lecteur, faire une fin aussi chrétienne que celle du beau chasseur d'ours, Hamilton.